bonsoir à tous. La Confédération paysanne s'élève contre les accords de libre-échange qui sont néfastes pour le revenu agricole, estime le syndicat. Nous irons ensuite sur le chantier de l'abbatiale de l'Absy, illustration d'un patrimoine complexe à sauvegarder. Le salon des vins de Thouars s'ouvre demain à l'orangerie du château pour sa 75e édition. Enfin, la semaine de la petite enfance connaît un nouveau temps fort demain à Saint-Pierre-des-Échaubrognes. Alors que le Sénat examine le CETA aujourd'hui, une délégation de la Confédération paysanne s'est rendue ce jeudi midi à Maucoutan devant la permanence de Philippe Mouiller. Le CETA est un traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne qui vise à faciliter les échanges commerciaux alors que la plupart de ces mesures s'appliquent déjà de façon provisoire depuis 7 ans. Un rejet français mettrait en péril la ratification de cet accord. Les Républicains, dont le sénateur Mouiller, ont annoncé qu'ils votaient contre, ce qui va dans le sens souhaité par la Confédération paysanne. Benoît Jaunet, le porte-parole du syndicat en Deux-Sèvres.
Bah pour nous, défendre le revenu agricole, c'est être contre tous les accords de libre-échange tels qu'ils sont conçus, parce qu'on fait toujours entrer des produits en concurrence déloyale à ce que nous pouvons produire en France. Voilà, schématiquement, et l'ensemble des accords de libre-échange, et il n'y a pas que le Mercosur, le CETA en fait partie. Il fait entrer de la viande et des produits laitiers, entre autres détaxés, et donc ça vient toujours en concurrence sur ce que l'on produit. Également, ça permet de faire entrer du colza OGM pour faire des agrocarburants qui vont servir à la composition du GNR. Et les intérêts de ça, c'est quand même le groupe Avril et son président, Arnaud Rousseau, qui ont tout intérêt à ce que certains accords de libre-échange perdurent, plutôt que de changer le modèle pour que le revenu des paysans soit protégé. C'est toujours les grands groupes les gagnants. Le ruissellement, on voit bien qu'il n'existe pas. Et aujourd'hui, si on vient aussi à Montcoutan, c'est qu'on est dans un pays de bocage et un pays d'élevage. Et tous ces accords-là, souvent, les grands perdants, c'est bien l'élevage. Et quand l'élevage disparaît, c'est le bocage et la protection de l'environnement tel qu'on peut le voir, et la beauté de nos paysages.
Benoît Jaunet, porte-parole de la Confédération paysanne, à propos des accords de libre-échange, alors que le CETA est examiné par le Sénat aujourd'hui. Une mission nationale sur le stockage des eaux superficielles confiée à Coralie Desnoux, porte-parole de Département de France et présidente du Conseil départemental des Deux-Sèvres. Cette mission, je cite Coralie Desnoux, doit permettre d'apporter des solutions concrètes tant pour le stockage de l'eau que pour l'accès à celle-ci, en travaillant à la fois sur les aspects techniques du stockage de l'eau et de sa préservation que sur les différents usages et la bonne coordination des acteurs concernés. Fin de citation. Le chantier de l'abbatiale de l'Absy est en cours. Il consiste en la consolidation du bâti et la restauration de la toiture de l'aile est. Un chantier très attendu à l'Absy qui veut faire de son abbatiale un attrait touristique. À Patricia Mimo, maire de l'Absy.
Avec la restauration et la consolidation de ce bâtiment associé avec les peintures murales, nous allons pouvoir apporter un attrait à la commune au niveau touristique et culturel. Et nous souhaitons et nous commençons déjà à le mettre en place. Nous avons des visites de l'abbatiale. L'année passée, c'était la première année où nous mettions des visites. Nous avons eu de avril à novembre 500 visiteurs pour les peintures qui sont reconnues au niveau national.
Les travaux ont débuté depuis quelques semaines sur cette aile de l'abbatiale de l'Absy, et lors du lancement officiel ce mercredi, François Jeannot, l'architecte angevin, n'a pas caché qu'il y avait des mauvaises surprises sur l'édifice à restaurer.
Globalement, ça a été reconstruit, modifié, et on a des murs en terre qui font que c'est assez complexe de faire tenir une charpente qui elle-même avait été très bricolée, sur laquelle on était obligé de faire des travaux de consolidation, de confortation. Voilà, donc tout cela fait que c'est un chantier assez technique.
Mais en quoi il est intéressant pour vous ?
On a quand même une base du XIIe siècle, hein, qui n'est pas négligeable. Donc c'est notre métier, hein, de travailler sur les bâtiments anciens. On a beau faire des études assez détaillées, c'est le cas ici, on n'est jamais à l'abri plutôt de découvertes fortuites, hein, d'éléments qu'on n'avait pas imaginés aussi altérés, par exemple.
Mais l'architecte peut compter sur des entreprises de Sévrienne qui savent y faire dans la restauration de l'ancien, avec Sommebat pour la maçonnerie et la taille de pierre, Asselin pour les charpentes et menuiseries, et Coutan pour la couverture, Bastien Jumeau pour Sommebat et Bertrand Douget pour Asselin.
On en est maçon tailleur de pierre, donc c'est le travail qu'on maîtrise, hein, il n'y a pas de problème. D'un point de vue technicité, il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est de la maçonnerie traditionnelle, du mortier chaud sable avec du moellon de récupération. Donc techniquement, c'est pas compliqué. Le reste, c'est essentiellement du volume et du temps passé.
Alors pour Asselin, l'architecte le disait, on était sur une charpente bricolée. Tout est à reprendre finalement.
Oui, parce que je pense qu'on va en garder entre 20 et 30% un grand maximum pour sortir quelque chose de cohérent pour la couverture. Parce que là, on est vraiment d'un pur monument en restauration et il faut s'adapter. Donc, c'est le fer de lance de l'entreprise.
Le montant des travaux se chiffre à 500 000 euros avec le soutien des financeurs publics, la DRAC principalement et la Fondation du patrimoine à travers la mission Berne notamment. Le chantier est prévu pour se terminer fin juin, début juillet, mais les délais seront durs à tenir et il faudra sans doute rallonger un peu l'enveloppe. La préfecture des Deux-Sèvres, l'association des maires et le syndicat de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière organisent une réunion d'information demain matin à la salle des congrès de Bressuire sur la réglementation concernant les débits de boissons. Le 75e salon des vins de Thouars au sommet de son art le week-end dernier. Le concours national a décerné 48 médailles sur 173 échantillons de vins de Loire présentés. Accessoirement, les vins du Thouarsais ont claqué des bretelles en réalisant un total de 17 médailles, 5 en or, 9 en argent et 3 en bronze. De quoi mettre en bouche le salon des vins qui fête ce vendredi, samedi et dimanche son 75e anniversaire à l'Orangerie du Château. C'est exactement l'avis de Jean-Pierre Thébault, l'un des trois co-présidents du comité organisateur. Il est au micro colline de Dominique Hérault.
On a agrandi notre structure extérieure, donc cette année on aura 106 viticulteurs, c'est plus que d'habitude. Beaucoup de nouvelles appellations, petit à petit on est en train de couvrir vraiment toute la France en viticulteurs. Oui, cette année on a des nouveaux, on a le Provence, qu'on n'avait jamais de Provence, des Pixinloup, des Faugères, des Condrieux, des Cornasses, et ainsi de suite, plein de nouveautés encore en Bourgogne, dans Beaujolais, et même sur l'Anjou, ça monte en gamme, on a de plus en plus de viticulteurs qui ont une belle cote. C'est un salon qui commence à être bien connu, qui répond à toute la France, mais presque, oui, ça c'est sûr qu'il y a beaucoup de demandes. Alors nous, on cherche des appellations bien précises maintenant, parce que on va pas doubler un Pixinloup, on va pas doubler un Faugères, donc on cherche toujours de nouvelles appellations. Souvent, on a des demandes beaucoup de Bordeaux, ben Bordeaux, on en a assez, entre autres. Hein. Et de l'Anjou, on en a assez aussi, donc on va chercher vraiment des nouvelles régions, des nouveaux secteurs.
Mais pourquoi pas en Bretagne?
Ça commence, hein. Ils ont commencé à planter de la vigne en Bretagne, dans le Nord, un peu partout, en Normandie, je crois que ça commence, oui. Bon, enfin bon, on n'est pas encore rendu à voir des viticulteurs venir au salon de là-bas, mais sait-on jamais, hein.
Flairant l'aubaine du réchauffement climatique, les Anglais s'y mettent d'ailleurs consciencieusement. Outre-Manche, plus près de nous, le salon des vins de Thouars propose à la fois de se faire le palais et de découvrir la géographie française. Il est ouvert tout le week-end jusqu'à dimanche soir à l'Orangerie. Il débute ce vendredi 22 mars par l'inauguration de la route des vins du Thouarsais. Prix d'entrée 5 euros avec un pass à 10 euros pour les 3 jours. Reportage de Dominique Hérault. Encore quelques instants de rencontres privilégiées pour la semaine de la petite enfance. Elle a débuté samedi dernier sur le pays moléonnais et s'achève ce samedi. Le CSC avait concocté une riche programmation gratuite et ouverte à tous, pensée par un collectif de parents et de professionnels. Ce vendredi constituera encore un temps fort du côté de Saint-Pierre-des-Échaubrognes. Mélanie Boissonneau est référente famille au centre socio-culturel.
Il y avait des matinées récréatives, il y avait des après-midi jeux et détentes intergénérationnelles, il y avait des soirées d'échange avec entre autres la sage-femme de secteur Angélique Vivion. Ce vendredi, donc, il y aura également une soirée spectacle avec l'association Coccinelle Demoiselle qui nous proposera un spectacle La Petite Bête qui Danse. Donc ça c'est une programmation qui est fixée à 18h. Le spectacle se passera à la salle Côté Jardin de Saint-Pierre-des-Échaubrognes. C'est une soirée qui est gratuite, qui est ouverte à tout le monde et qui continuera ensuite. Donc le spectacle va durer 30 minutes et ensuite de 18h30 à 20h, on invite en fait les partenaires également du territoire et les associations à venir parler de leur action, de leurs projets, de leurs attentes. Donc c'est vraiment des associations et des partenaires qui travaillent autour du champ de la petite enfance.
Seront ainsi représentés demain soir à Saint-Pierre-des-Échaubrognes l'association Parentalité et Partage, l'association La Soupape, la boutique Mam et Merveille, les responsables des multi-accueils du CSC, les Petits Lions et les Lutins Coquins, ou encore l'animatrice du relais Petite Enfance. La semaine touche à sa fin et le bilan est d'ores et déjà très positif.
c'était et de promouvoir en même temps le métier d'assistante maternelle, parce que voilà, on invitait également les professionnels à se retrouver, à se réunir dans des espaces animés, et on invitait également voilà les parents à retrouver des espaces qui étaient spécialement aménagés. Voilà, il y a un espace Nos Hélènes d'ailleurs qui avait été pensé, un espace d'atelier détente et bien-être qui avait été également pensé, où les familles pouvaient également profiter de ces lieux. Voilà, l'objectif c'était vraiment aménager des lieux d'accueil pour la petite enfance, faire du bruit, ouvrir les portes, voilà, se raconter des histoires. Voilà, une semaine de rencontres entre les professionnels de la petite enfance, les parents et les tout-petits.
Et un dernier rendez-vous sera proposé ce samedi au Castel de Mauléon de 10h30 à 11h30, un cinéma jeune public avec une projection tout à fait adaptée aux tout-petits, avec une lumière tamisée, un film de 40 minutes et un niveau sonore adapté. En sport, en football, les Chamois-Niortais recevront Orléans à Niort. Cela peut sembler une évidence, mais à la lecture du communiqué publié par les Chamois ce matin, on comprend bien que la rencontre a failli être délocalisée. À cause des problèmes d'éclairage qui empêchent la tenue des rencontres de nuit au stade René Gaillard, le club adverse Orléans, la FFF et Canal+, qui retransmet le match, ont finalement accepté de jouer à 16h30 le 1er avril. L'info peut sembler cocasse, mais ce n'est pas un poisson d'avril. Dans son communiqué, le club des Chamois remercie sans les nommer les municipalités qui avaient accepté de recevoir le cas échéant le match s'il n'avait pas pu être avancé dans l'après-midi.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Un risque de brouillard demain matin, nous aurons ensuite un temps bien ensoleillé et quasi les mêmes températures qu'aujourd'hui. 8-9 degrés au lever du jour, 20-21 degrés pour les maximales. Le mercure chute samedi, on perd 10 degrés malgré la présence du soleil, au moins en matinée. La suite du week-end pourrait être plus nuageuse et venteuse, surtout samedi avec des rafales à 40-50 km/h. Toute l'info près de chez vous revient désormais demain matin à 7h avec Boris Blais. Bonne soirée.
C'était la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.